Eh bien, nous avons la chance ce soir d'accueillir François Gantret, qui est un vieil ami. C'est un collègue psychanalyste qui a la particularité d'être également écrivain et qui vient nous présenter ce soir son dernier ouvrage qui s'appelle « La nostalgie du présent, psychanalyse et écriture ». Un ouvrage qui est sorti dans une collection qui est celle de Pensées rêvées, que dirige Michel Gribinski et qui est liée également à la collection de psychanalyse Pensées rêvées, à la revue. Dans cet ouvrage, François Gantret va nous parlera tout à l'heure de son objet, psychanalyse et écriture, mais je voudrais avant tout vous présenter François Gantret, vous dire un peu qui il est, si toutefois c'est possible. C'est un collègue qui est donc membre titulaire de l'Association psychanalytique de France et qui a pendant de très nombreuses années, de façon tout à fait essentielle pour lui, si on en croit ce qu'il écrit lui-même, mais ce que je pense quant à moi, participé au comité de rédaction de la nouvelle revue de psychanalyse avec J.B. Pontalis, collection qui a existé pendant 25 ans et dont François a été un membre tout à fait éminent du comité de rédaction. À ce titre-là, il a commencé à écrire de la psychanalyse dans la nouvelle revue, et puis ensuite un certain nombre de livres. Je vous donne leur titre éventuellement, « Incertitude d'Eros, connaissance de l'inconscient »,« Moi, monde, mot », toujours dans la connaissance de l'inconscient. Un ouvrage qui me paraît important par rapport à son mouvement de ce soir, qu'il a nommé « Libido, omnibus et autres nouvelles ». Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il faut dire aussi, j'oubliais au passage de dire que François Gantret est maintenant professeur émérite de psychopathologie à l'Université de Paris 7. Donc, « Libido, omnibus et autres nouvelles de Divan », puis à partir de cet ouvrage-là, qui semble-t-il a marqué... c'est une forme de question aussi que je lui pose, son entrée dans le monde de la fiction ou c'est une meilleure saisie de ce qu'était la fiction. Il a écrit directement des romans, dont le premier, Les corps perdus, prix Ulysse du premier roman en 2004, ensuite Comme le murmure d'un ruisseau, puis Ferme les yeux en 2007, et un ouvrage tout à fait étonnant qui est à mon avis très proche et qui contient la matière de son ouvrage, de l'ouvrage dont nous parlerons ce soir, qui est « Petite route du Tolonnais », un ouvrage qu'il a consacré totalement à Paul Cézanne et à la manière dont Cézanne concevait la peinture. Ce qui fait que à ce carrefour psychanalyse et écriture, on pourrait y ajouter un troisième élément qui serait psychanalyse, écriture et peinture. Je pense que tu ne serais pas en désaccord avec cet élément-là. Je dirais également que le titre que tu proposes a résonné pour moi avec une remarque de Freud, plus qu'une remarque, avec un article de Freud qui s'appelle « Le créateur littéraire et sa fantaisie ». Et j'ai trouvé que ton ouvrage était une forme de réponse et d'illustration à cette curiosité de Freud qui questionne le créateur littéraire. C'est un article qu'il a écrit en 1908. Et très curieusement, tu connais cet article certainement, il a écrit cet article à partir d'une conférence que Freud a prononcée le 6 décembre 1907, justement dans les salons d'une librairie. Et dans les salons d'une librairie viennoise, qui était celle de Hugo Heller, lui-même Hugo Heller, membre de la Société psychanalytique de Vienne. Je vais citer une phrase de Freud parce qu'elle me paraît éclairer ton propos de ce soir. « Nous avons toujours été très curieux de savoir où cette singulière personnalité, le créateur littéraire, va prendre sa matière et comment il parvient par elle à tellement nous saisir, à provoquer en nous des émotions dont nous ne serions peut-être même pas, cru capables. » J'ai trouvé que c'était tout à fait utile par rapport à ton propos. Je dois dire également que ton livre ne m'a pas seulement questionné du côté de la création littéraire, mais également du côté de la pratique analytique. J'irais presque, si tu n'es pas choqué, que c'est un écrit technique. Par exemple, j'ai relevé un certain nombre de phrases que j'ai notées par ici. Par exemple, tu dis « L'analyse est une fiction ». Tu dis « Le rêve est à venir ». Tu dis « Non, tu ne dis pas, tu écris ». Mais c'est la même chose, enfin, semble-t-il. « La psychanalyse n'est pas scientifique ». Tu écris « L'analyse n'est pas une guérilla ». Tu écris « L'infantile ne s'éteint jamais ». Tu écris encore « Le transfert n'est pas une embuscade ». Tu écris ensuite « L'infantile n'est pas le passé, c'est un présent immuable ». Autant de prises de position tout à fait précises quant à la pensée psychanalytique, quant à la pratique elle-même, quant à l'orientation que tu dois donner, que tu donnes certainement à ta pratique quotidienne. Voilà un peu posé le tableau de ce qui va nous animer ce soir. Je ne sais pas si tu souhaites maintenant prendre la parole ou bien si Jean-Philippe Dubois va...
Juste un petit mot alors, parce que je vais pas... C'est surtout intéressant quand même d'entendre notre invité avant toute chose. Mais je voulais dire que ce qui... Bon, psychanalyse et littérature, on est quand même... au centre de quelque chose d'un lien qui a toujours existé pour Freud déjà, puisqu'on sait qu'il était toujours accompagné par Cervantes, Shakespeare, Goethe, mais aussi par, historiquement, la psychanalyse a toujours eu un peu un cortège d'écrivains qui l'a suivi, à Vienne déjà, avec Zweig et Schnitzler, mais aussi autour de Ferenczi à Budapest, où il y avait aussi une école littéraire qui était très, très dynamique, des gens qu'on peut lire encore et qui sont tout à fait passionnants. Ce qui est peut-être plus rare, la spécificité, je dirais, l'intérêt aujourd'hui, à partir de ce qui s'est joué dans la nouvelle revue de psychanalyse, c'est que l'intrication est encore plus forte, puisque avec François Gantré en particulier, on a vraiment un écrivain qui est aussi un psychanalyste, quelqu'un qui produit des œuvres de fiction complètement, avec plusieurs romans. Et ça, c'est assez rare, parce que on sait, J.B. Pontalis a fait des œuvres, mais qui sont plutôt quand même de nature autobiographique, et c'est pas tout à fait pure fiction comme c'est là le cas. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est assez spécifique, et je crois que c'est à partir de cette spécificité là que François Gantré nous propose autre chose, qui est effectivement qui peut être lu aussi bien comme de la théorie psychanalytique, quelque chose d'une analogie entre les deux démarches, et peut-être il va de ce côté-là un peu plus loin que ça a été fait jusqu'à maintenant, ou proposé jusqu'à maintenant. Une analogie autour de la notion, en particulier, me semble-t-il, de création, mais c'est peut-être justement ce qui fera débat par la suite. Ce que j'aimerais peut-être, c'est qu'il vous parle d'abord de cette spécificité qui est la sienne.
Bon, merci à l'un et l'autre. Pas psychanalyse et littérature, psychanalyse et écriture. Je ne me serais pas lancé dans psychanalyse et littérature, qui est un sujet gigantesque, qui a été traité dans tous les sens, qui est énorme. Mais non, psychanalyse et écriture, c'est-à-dire l'acte même d'écrire. Et ce qui, pour moi, présente ce que j'ai expérimenté, et c'est dont je voulais témoigner, comme unicité, disons la disposition psychique, le mouvement psychique que je ne sens, où je ne sens pas de solution de continuité entre celui de l'analyste dans son travail d'écoute et celui de l'écrivain dans, ben, ma foi aussi, son travail d'écoute, c'est-à-dire l'écoute de ce qui vient en lui et de ce qu'il peut entendre dans les mots qui lui viennent et ce qui va lui faire découvrir la suite. C'est-à-dire que écrire, à mon sens, ce n'est pas transcrire sur le papier avec des mots qui seraient des mots ustensiles. Transcrire quelque chose, des pensées qu'on a déjà en tête, c'est demander au langage de préciser, de dire, d'exprimer des pensées qui sont en souffrance de se penser. Et convoquer, si ça se fait, d'ailleurs ça ne se fabrique pas, mais si ça se fait, alors je pense que là on convoque le lecteur à ce même mouvement où dans sa lecture, si bien que je pourrais ajouter écriture et lecture,
et où, peinture,
et peinture, que dans, dans, oui, alors, je vais y venir justement là, j'avais en tête, là quand je dis, ce qui est en souffrance de se dire, et qui j'avais demandé au langage de m'apporter des formes qui peuvent donner forme à ce que je perçois confusément, où je demande à mon écriture de me dire moins confusément ce que je peux ressentir, eh bien, en effet, la peinture, Cézanne disait, peindre d'après le réel, d'après la nature, ma citation n'est pas tout à fait précise, mais enfin, c'est ça. Peindre d'après nature, d'après le motif, ce n'est pas copier le réel, c'est réaliser ses sensations. C'est-à-dire porter dans le réel de la toile ce qui est sous forme de sensation, sous forme brute de sensation. Ce qui conduit des peintres à des choses qui sont assez étonnantes quand même. Et là, c'est peut-être plus spectaculaire que pour l'écriture. Je crois que je le reprends dans le livre, là, les exemples dont les témoignages sont avérés, de Courbet et de Millet, avec la même réflexion. Bon, Millet peignait, s'absorbait complètement dans son travail lorsqu'il peignait. Il était plongé dedans. On pouvait passer, il avait un très grand atelier, et bon, il y avait des gens qui défilaient, il ne les voyait pas. Au bout d'un certain temps, il en sortait, c'était terminé pour ce jour-là. Et il disait, mais c'est quoi ça, ces trucs gris-là ? Bon, il disait, mais c'est des gerbes. C'est-à-dire que ce qui témoigne d'une façon presque un peu caricaturale, exagérée, et il y a le même témoignage pour Courbet, que il y a là l'appel à des sensations brutes, c'est-à-dire non pas « je vais peindre une gerbe », mais je me laisse rendre dans la réalité de la toile l'effet, les remous en moi que cette contemplation a causé. Et parfois, pour revenir à Cézanne, par exemple, parfois, quand Cézanne allait sur le motif, comme il disait, avec son chevalet, ses toiles, n'aimant pas trop qu'on vienne l'empoisonner, il était très bougon et un peu sauvage et rude en tout cas. Et puis il arrivait que il reste la journée ou la demi-journée sans peindre du tout. Et quand on lui demandait mais enfin pourquoi, il disait parce que je ne suis pas innocent. Pas innocent, c'est-à-dire dans cette idée d'une innocence. Il disait aussi comme un petit enfant. C'est-à-dire comme un petit enfant dont on peut s'imaginer que le tout petit enfant une participation, disons, à l'environnement, où d'abord, il y a très peu, sinon pas au début, enfin on peut essayer de reconstruire ainsi, ou de le reconstruire dans une analyse par exemple, où il n'y a pas au début de distinction entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui, où c'est sur le même plan que se situe peut-être un remugle dans son ventre et les jeux du soleil dans une frondaison. Et c'est-à-dire d'être totalement pénétré de faire partie de ce réel. D'en faire partie, mais d'en faire partie totalement, de n'en être pas distingué. Et, alors, un autre peintre, André Marchand, témoignage. Il dit, parfois, dans une forêt, eh bien, je suis submergé. J'ai l'impression, je regarde les arbres et les arbres me regardent. Enfin, il témoigne là aussi d'une sorte de confusion. Hein, et il dit, je peins pour surgir. Je peins pour surgir, c'est-à-dire pour m'extraire avec des formes qui également me mettront au monde. C'est pas indifférent cette référence au petit enfant qui est chez Cézanne, mais pour nous, à savoir qu'est-ce qu'il en est de l'infantile dans la psychanalyse, dans l'analyse. Comment est-ce que nous savons que l'analyse ne peut reposer en tant que pratique transformatrice, non pas en tant que connaissance, mais en tant que pratique transformatrice, ne peut reposer que sur ce que nous appelons le transfert. Le transfert, c'est la présence actuelle de l'infantile. Un infantile qui reste en nous latent, sous-jacent, qui guide et oriente nos perceptions, nos actions, nos humeurs, etc., sans que nous nous en doutions, qui suscite des débats internes, voire des conflits et des tentatives de solution que nous appelons névrose. Et si nous voulons toucher à cet infantile, eh bien, il faut qu'il soit là, non pas évoqué, mais en présence. Le transfert est une présence de l'infantile, une présence en acte. C'est assez facile à comprendre, et même peut-être de façon un peu simplifiée, mais c'est Freud lui-même qui le proposait ainsi. Hein, il y a obligatoirement, dans la vie de l'enfant, du petit être humain, il y a forcément des conflits. Des conflits entre ses désirs, ses pulsions, disons, pour prendre le jargon, en tout cas ce qu'il désire, ce en quoi la réalité vient s'y opposer, des conflits qu'il va tenter de régler comme il le peut, avec des compromis, avec des solutions entre guillemets qui ne sont jamais vraiment bonnes, c'est ce qu'on appelle la névrose infantile. Hein? Et ce n'est pas une maladie, c'est ce par quoi nous sommes tous passés et qui nous habite tous. Mais il arrive que ces solutions soient dommageables. Mais comment va-t-on recréer, retrouver, toucher à cette névrose infantile? C'est dans ce relâchement du langage que la méthode analytique propose, du langage et de la pensée. C'est-à-dire laisser surgir ce qui vient, ce qui passe, ce qui ne pas faire de distinction entre ce qui pourrait sembler important et secondaire, mettre sur le même plan le fond et la forme, dans l'écoute d'un rêve, entendre de la même oreille le début du rêve, le récit du début du rêve, une incise qui est là c'est plus flou, et ensuite la suite. Eh bien ce là c'est plus flou, le mettre dans le même panier que le reste. Bon, donc cette espèce de relâchement de la pensée qui permet que ce qui est dans notre langage de tous les jours, soigneusement maîtrisé, vienne montrer le bout du nez par exemple un lapsus, par exemple des choses de ce genre. Et mettre le doigt sur ce que Freud appelle là un rejeton de l'inconscient, il dit pas c'est l'inconscient à ciel ouvert, hein. Il y a là un rejeton de l'inconscient qui, grâce à ce relâchement, peut montrer se faire signe. Mettre le doigt dessus, c'est réactiver les tentatives de solution du conflit qui ont été celles de la névrose infantile. Et donc, à ce moment-là, on a là la chose en présence. En présence, en acte, actuel et en acte. Hein? Le transfert est un agir dans la pensée, et un agir de la pensée. quand j'écoute un patient, souvent, j'ai cette, ce modèle, cette représentation, cette façon de penser, qui est que ce qu'il est en train de dire, ou elle, eh bien, ma foi, c'est comme si elle me projetait ou me peignait un tableau sur le mur qui est en face. Un tableau où je peux voir lui enfant, lui actuellement, son entourage, c'est des épisodes de sa jeunesse ou des épisodes actuels, ou même moi qui suis mis en scène dans l'affaire. Bon, tout ça m'est représenté. Ce sont des représentations. Je les écoute comme telles. Je ne peux pas d'ailleurs ne pas les écouter. Mais si je veux que cela s'anime actuellement pour moi, je dois faire cette sorte d'exercice qui serait de prêter tout à la fois attention à ce qui est représenté, comme dans le cadre d'un tableau, et les touches de peinture actuellement posées pour cette représentation. Celles-là sont actuelles, celles-là sont en acte actuellement. Et ça, c'est peut-être ça qui est le plus important pour moi, pour faire surgir, ou au moins esquisser, ce qui est actuellement en jeu dans l'analyse.
Tu veux parler de la présentation à ce moment-là.
Alors là, c'est présentation, c'est ça, présentation, présence. Oui. Il y a même un mot que j'aime beaucoup, qui est un néologisme dans la langue française. C'est un mot dans le destin a été quand même tout à fait particulier. C'est Ortega y Gasset qui traduisait, était tout à fait un spécialiste de Hegel, de Husserl, et il essayait de traduire Erlebnis en allemand. Bon, alors, pour ceux qui parlent allemand, ils entendent le Leben à l'intérieur, la vie. Erlebnis, c'est l'expérience. Mais ça porte en allemand quelque chose du Leben, ce qui a été vécu, que ne porte pas l'expérience dans notre langue. Ni même dans ce dont Ortega y Gasset disposait, c'est-à-dire l'espagnol. Alors, il a créé un mot qui était au plus proche pour lui, vivencia. Et il y a eu cette chose tout à fait exceptionnelle, parce que il n'est, et tout le monde le reconnaît, il n'est du pouvoir de personne, d'aucun individu, ni même groupe d'individus, de légiférer sur la langue. C'est-à-dire de décider que tel mot va être introduit dans la langue ou tel va en être retiré. La langue a une vie à elle, nous sommes parlés par la langue. Bon, les essais dans ce sens ne fonctionnent pas. La langue est une entité vivante à elle seule. Eh bien, là, ce mot de vivencia est devenu un mot courant de la langue espagnole. Un mot courant dont tout le monde se sert sans du tout, et même sans connaître Ortega y Gasset, et même sans connaître Husserl encore moins. Bon, la vivance. Ça, si on faisait la même chose en français, ça serait la vivance. C'est à ça que je me réfère.
Oui, c'est ça, la présentation.
Voilà.
Oui.
En présence.
Oui. Est-ce que... Alors, une question tout de même, par rapport à ton activité d'écrivain, justement. Il me semble comprendre, tu le dis et tu le répètes, mais c'est peut-être pas ce le moment, mais il me semble que c'est au petit matin que tu écris.
Oui.
Quand tu es le plus près, toi-même, de ton activité de rêve. Quand tu es réveillé, mais c'est le petit matin, c'est pas encore la grande lumière. C'est la peinture, enfin, les sensations visuelles sont pas les mêmes. Écris-tu toujours au petit matin?
J'écris toujours au petit matin.
Quand tu écris...
Quand j'arrive à me lever, ce qui est de moins en moins fréquent.
Bon, mais quand tu écris, je veux dire de la littérature, des essais, des fictions. Parce que la psychanalyse, tu l'écris peut-être pas au même moment.
Si.
Aussi
si,
au petit matin.
Oui, oui, oui.
Tu écris tout au petit matin.
Bon, mais d'abord, il y a quelque chose qui est purement qui est purement contraignant de point de vue matériel, c'est que, bon, ensuite, il y a les patients, et qu'après une journée de patients, le soir, je suis bon à rien. Je suis bon à rien, juste à regarder la télévision éventuellement, ou à lire le journal.
On aussi bien penser le contraire, que le soir, après avoir été agité par les patients, tu es bon à tout.
Eh bien, ce n'est pas mon cas.
C'est pas ton cas. Donc, il te faut la proximité du rêve.
Alors, proximité du rêve, je ne suis pas sûr. Ah. Tu proposes cette...
C'est un peu ce que tu proposes dans ton livre, hein, le petit matin.
Ah ben, le petit matin, oui. Mais que ce soit lié à la proximité du rêve, je ne suis pas sûr. Parce que... entre l'activité, l'activité psychique de l'écriture, c'est un débat. Hein, que je vais pas faire du pathos en disant un débat douloureux. Mais c'est pas le fleuve tranquille. On se bagarre avec. Avec l'idée à venir, avec le mouvement à venir, avec le mot à venir, on peut être tenté d'écrire bien, surtout si on a quelques facilités là-dessus, de donner les bons mots qui vont être choc et puis faire bien traduire ce qu'on a en tête. Mais justement, il ne s'agit pas de traduire ce qu'on a en tête, voilà. Il s'agit d'être à l'écoute de ce qui n'arrive pas à se dire. Hein. Et là, il y a des mots qui vont se proposer, et celui que, va savoir pourquoi, je vais retenir, eh bien, ça n'est pas le beau mot, le plus beau, ce n'est pas celui... Parce que ce beau mot, il clôt. Il clôt, il donne une forme définitive... Et il clôt ce dont je voulais parler. Il est représentation. C'est une belle peinture représentée, hein, une belle touche de peinture. Mais point, c'est tout. Tandis que le mot qui va s'imposer sera en décalage, en léger décalage, ouvrira quelque chose qui demande à poursuivre, appellera. J'ai assisté à une... Et là, on va passer à la musique. J'avais relaté ça dans un article de Pensée rêvée sur la forme.
Oui.
J'ai assisté à une masterclass de Peraya. Pianiste, bon... Et une jeune fille passe et joue une fugue de Bach superbement. Enfin, avec une technique absolument irréprochable. Peraya l'écoute, les yeux fermés, puis lui dit « stop, stop, stop ». Il dit « vous voyez, il faut que dans votre note, la note que vous frappez, il y ait l'incertitude de ce qu'elle va devenir et déjà l'espoir de ce qui est 25 mesures après ». Qu'elle soit tirée par et qu'elle conduise à et qu'elle soit tirée par ce qui sera au bout de la phrase musicale et qu'elle soit pénétrée de doute, sinon elle achève à chaque fois.
Oui.
Donc qu'elle soit dans ce tremblement ou dans ce doute. Dans le livre, je relate quelque chose que j'ai trouvé, qui m'a vraiment saisi. Paul Valéry, c'était en 1929, je crois, est invité par la Société française de philosophie à faire une conférence sur la création littéraire. On lui demande, Monsieur Valéry, vous qui êtes écrivain, qui êtes poète, là, dites-nous comment ça se passe, comment vous écrivez, de quoi vous partez. Alors il dit, je pars de fragments. Des bouts de des fragments qui me passent, que j'ai en tête, une situation, une image, une phrase, et puis ils s'assemblent ou pas. Peu à peu, ils me mènent quelque part, ou bien ça peut ne pas marcher et s'assécher. écrire le matin, il arrive que, rendu à 7h30, s'il est endormi à 4h30, il n'y a rien qui est sorti. Mmh. Hein, ou que plutôt, il y a des phrases qui ont été barrées.
Tu dirais, rien n'est transféré.
Rien n'est transféré, voilà.
Sur la page blanche.
Ouais. Ou comme Cézanne, parce que je n'étais pas ça. Innocent, oui. Probablement. Et je ne sais plus du coup ce que je voulais dire.
Tu parlais de Muret Peraya et de la masterclass.
Ah oui, de Paul Valéry.
Et ensuite de Valéry.
Voilà. Et, eh bien, il dit, Valéry dit, ces fragments, un peu baladeurs, errants, là, dont je vais me saisir, dont je vais voir qu'est-ce qu'ils m'apportent, comment ils s'assemblent, s'ils s'assemblent, qu'est-ce qu'ils vont me dire de ce que... Parce que je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais il les appelle des débris du futur. Ce qui est assez vertigineux quand on y pense, hein, quand on considère bien la formule. Des débris du futur. Pour nous, des débris, bon, c'est issu d'une catastrophe qui a eu lieu. Des débris du futur, c'est-à-dire, il faudrait arriver, et c'est bien difficile, ça c'est la question du temps. Il faudrait arriver à penser tout uniment que le futur nous tire comme ce qui aura été accompli tout autant que nous le construisons. Ou plus exactement, que peut-être nous croyons construire alors que nous sommes tirés. Voilà. Question de temps.
Question de temps, tu as raison, et pour l'analyste, est-ce que dans cette notion-là, tu y entendrais par exemple l'après-coup, enfin, parce que débris du futur, c'est complètement époustouflant.
Tout à fait.
On retrouve un peu le même paradoxe que dans la nostalgie du présent.
Oui, complètement époustouflant comme titre aussi, ton titre. Ouais.
Oui, alors... Bon, je passe par la question du temps et de l'espace par la même occasion. Si ce qui, dans l'écriture ou dans l'analyse, et dans l'analyse, comme dans l'analyse, ou peut-être dans toute création, si c'est l'émergence du nouveau tel qu'il a été nouveau, ça ne veut pas dire c'est tel qu'il a été nouveau, tel qu'il reste toujours nouveau. L'infantile, il n'est pas un temps de l'enfance. L'infantile, c'est quelque chose qui est toujours présent en chaque moment. Il faut penser que, nous sommes obligés de penser que, et le temps et l'espace, tels que nous les connaissons, sont déjà des mises en forme que nous faisons, alors de quoi ? Des mises en forme, des découpages. Nous ne pouvons pas se penser en termes spatiaux sans penser en termes de découpage, de frontières, d'éléments. Bon, nous ne pouvons pas penser en termes de temps sans penser en termes d'une part de vectorisation et puis de moments et de découpage, etc. Peut-on toucher à ce qui serait... Antérieur est un mauvais mot, parce que justement, je suis en train de me servir d'un découpage temporel. Mais j'ai rien d'autre. Donc antérieur, comme dans les mythes, il y a l'antérieur. Hein, le « au début était ». Ce « au début » est un début de tous les instants.
Oui.
Et là, peut-on penser une catégorie qui serait en deçà de l'espace, l'étendue, c'est-à-dire la palpation de quelque chose du spatial, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas été encore pris dans les raies de la spatialisation, peut-on penser quelque chose du temps qui est antérieur, même guillemets, nos découpages et nos vectorisations temporelles et qu'on dirait être la durée. C'est la deux catégories extrêmement difficiles à penser, mais peut-être nécessaires à penser comme ce à quoi on peut peut-être toucher, mais juste effleurer. Il n'est pas question de s'y installer. Mais dans le moment poétique ou dans le moment de surgissement, il y a là quelque chose où s'anéantit pour un instant et les, nos catégories de temps et d'espace pour qu'il y ait ce surgissement, comme il peut être dans, un moment poétique.
Mais tout à fait d'accord. Mais tu remarques qu'en disant ça, tu fais une remarque implicite qui est pour que ce moment puisse se produire, il faut que durée et temps soient installés. Sinon, ce vacillement ne peut pas se produire. Alors, on reste dans l'infini et dans l'informel.
Alors,
c'est là toute la difficulté.
La difficulté se situe...
Le dosage, c'est pas comment dire.
Évidemment, non, mais ça, nous n'arriverons pas à le saisir en essayant d'être rationnel.
C'est ça.
Mais peut-être, là, par exemple, dans les dernières formules de Freud, de 39, les aphorismes de 39...
Psyché était tendu.
Hein,
oui.
Voilà. Mmh. Quand Freud essaye de penser... bon, c'est cette question de l'espace. Hein, et il dit, psyché est étendu, n'en sait rien. Il supprime même le pronom, n'en sait rien. Comme s'il y avait même une dépersonnalisation. Il y aurait là donc une palpation de la psyché par elle-même et sur elle-même. Hein, et que là serait ce moment de naissance,
oui,
des représentations, oui, spatiales ou temporelles.
Est-ce que, je ne sais pas, Jean-Philippe voulait peut-être intervenir là, est-ce que ce serait ce que tu introduis à ton insu même dans ce titre, la nostalgie du présent ? Ce n'est pas la nostalgie au présent,
non,
qui
non,
serait
non.
Une notion psychologique. Nostalgie du présent, c'est singulier, du présent.
Eh bien oui, mais alors ça dérive directement de ce que je suis en train de dire.
Oui.
C'est-à-dire, nous sommes condamnés au signe.
Oui.
Hein? Nous sommes condamnés au signe, c'est-à-dire que nous vivons dans un univers de signes. La sensation pure est pour nous extrêmement difficile à saisir, car elle est immédiatement transformée en signe. Pensez à un temps, pensez à la première fois où vous entendez « sa gerbe n'était pas avare ni haineuse » et comment une forme de gerbe, à ce moment-là, surgit, dont vous ne cherchez pas si elle veut dire générosité, etc., etc., mais simplement quelque chose d'une forme qui vient prendre ce qui était en souffrance. Bon, et tout de suite après, ce n'est plus qu'une trace verbale.
Oui.
Hein? Sauf si, alors, quand on dit, quand Cézanne se noie dans sa sensation, eh bien le moment où il va la réaliser, où il va demander à la touche de peinture, c'est le moment où André Marchand dit « je peins pour surgir », c'est-à-dire pour porter un signe, parce que je ne peux pas rester dans cet état où moi est anéanti. Car nous sommes aussi des signes. Nous ne pouvons nous penser que comme des signes désignés comme tels, et par nous, et par ceux qui nous ont procréés, etc.
Hein?
Bon, alors, nous sentons bien que, est-ce que nous le sentons ? Peut-être le sentons de façon extrêmement confuse, mais est-ce que nous ne sentons pas qu'il y a un déficit de réalité dans le monde que nous vivons, qu'il y a un déficit de réalité et que nous courons après quelque chose qui serait une plénitude. Mm-hmm. Que nous marchons, il y a la métaphore, je prends la métaphore de Borges de la carte,
oui,
que nous marchons sur non pas sur la terre ou l'herbe nue, mais sur une carte qui la reproduit, une carte avec des signes. Nous savons que c'est un sol, nous savons que c'est de l'herbe, et nous sommes en déficit de ce que serait la communion de notre plante de pied avec la fraîcheur de l'herbe. Bon, c'est ça que j'appelle la nostalgie du présent.
Voilà, c'est ça, oui, hein? Tout à fait, oui, oui. Qu'on éprouve autant, dans l'analyse, à certains moments très précis du transfert tel que vous le décrivez tout à l'heure, qu'on éprouve... à certains moments de lecture, le haïku, tu en prends des exemples, ouais, mais qu'on éprouve en regardant une certaine peinture et la musique. Tu prends plusieurs exemples dans la petite rue du Tolonnais où tu parles de Mozart, de Bach, enfin, des moments qui immédiatement se referment, des moments d'ouverture de perception de quelque chose de, qui est traversé par la sensualité d'ailleurs. Rien ne se passe sans sensualité dans ces moments-là.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Sinon, c'est mort, ça n'a pas lieu. Sinon...
Sensualité est un maître mot de la chose. Absolument. C'est-à-dire, absolument, oui. Je garde en tête l'idée d'écrire un essai, mais à chaque fois, ça me semble trop... qui s'appellerait « Éloge de la sensualité ». Enfin bon, oui, c'est qui, est, oui, qui oui. serait une reprise, une réhabilitation, une habilitation de cette catégorie de la sensualité, y compris dans l'analyse.
Que tu différencies, me semble-t-il, de l'affect en tant que tel.
Ah oui, hein, tout à fait, tout à fait. Il s'agit de se, autant qu'on le peut, de se laisser effleurer. La musique, tu dis la musique aussi. Ah, il se passe des drôles de choses des fois. Par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Comme le murmure d'un ruisseau ».
Oui.
L'eau a beaucoup d'importance dans ce roman. Il se passe des tas de choses autour de l'eau dans la montagne. Et je tenais à essayer de faire sentir la fraîcheur, si je peux dire, hein, à travers les mots, et c'est pas si facile. En plus, j'avais écrit ça, parce qu'avant j'avais écrit un autre qui s'appelle Les corps perdus, et qui se passe alors là dans la... le reggae et les aurès où là c'est écrasé de chaleur,
oui, c'est ça, oui.
Et j'avais envie de fraîcheur.
Il y a des petits coins de fraîcheur aussi dans Les corps perdus.
Oui. Et j'avais pris comme titre une notation de Schubert sur une partition où il a écrit de sa main comme le murmure d'un ruisseau, wieder ein Murmeln eines Bachs. Eh bien, et c'est explicite, eh bien, les Allemands qui m'ont traduit, alors que l'inscription de Schubert était en allemand au départ, hein, donc moi c'était déjà une traduction, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont mis comme titre ? La mémoire de l'eau. Ils ont dit, ça sera plus vendeur.
Eh oui. Le moi retrouvait tous ses droits.
Voilà.
Oui, 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 oui.
Et justement, finalement, on vous aurait peut-être attendu ailleurs, François Gantré, c'est-à-dire le goût pour l'écriture, le goût pour la psychanalyse. On aurait peut-être pu penser que ça allait nous ramener au primat du signifiant, à l'intérêt pour les mots, à des choses comme ça, où tout est langage. Et justement, ce qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est qu'on voit que ça nous ramène ailleurs, et du côté de la sensualité, du côté de la sensation, du destin de la sensation. Et Freud lui-même était un peu de ce côté-là, je pense, parce que à la fin, dans l'abrégé de psychanalyse, il parle du langage, mais comme un langage des perceptions, et non pas comme un langage des signifiants.
Et mais bon, quand je dis nous sommes dans un univers de signes, nous sommes signes nous-mêmes, etc. Bon, là je peux rejoindre ce que dit Lacan ou les Lacaniens sur ce primat, disent-ils, du signifiant. Sauf que il y a dans l'affirmation lacanienne, il n'y a pas d'échappée possible. Il y a une condamnation à être pris dans le signifiant. Ce qui fait d'ailleurs que si la trame signifiante est de quelque façon ou pour quelque raison, disons déchirée, abîmée, psychose, pas de salut.
Oui. Hein?
Et au fond, l'interprétation lacanienne serait l'acceptation de se conformer, hein, dite castration symbolique, l'acceptation de se conformer à cette désignation. Et moi, là, c'est là que je tiens à affirmer comment je m'en écarte, en disant, au contraire, l'interprétation en analyse, c'est le moment où, justement, on se saisit de cette capacité inouïe et forcément fugitive, mais quand même, à introduire du nouveau.
Tu dirais, l'interprétation est désignifiante.
Oui, est désignifiante pour laisser place
c'est
à un surgissement. Donc, même l'interprétation n'est pas un énoncé, c'est faire de la place.
Oui, c'est ça. Oui. Ce que tu dis là rejoint une autre orientation, enfin laisse entendre une autre orientation qui n'est pas explicitée comme thème, mais quand même tu emploies deux fois le mot colonialisme, c'est-à-dire le psychanalyste colonialiste ou non, ou colonisateur ou non.
Colonisateur.
Tu dénonces l'analyste colonisateur de sa théorisation et de son orthopédagogie, de son orthopsychie.
Tout à fait. Et de la prétention à une connaissance à laquelle, simplement le malheureux noir ou le malheureux patient serait prié de venir
conforter. Voir par les temps qui courent le malheureux français dans certaines situations. Enfin, l'organisation orthopédagogique règne. Et l'analyse a certainement là une place à remplir dans l'évolution même de la société française, au sens beaucoup plus large, parce qu'il nous invite aussi à ça.
C'était le point de départ de ce livre, c'est... en fait, c'est une conférence. J'avais été invité à Québec, c'était l'occasion du 20e anniversaire de la création de la Société de Québec, et il m'avait demandé donc de venir et de faire une conf sur quelque chose autour, psychanalyse et écriture. Et j'ai fait une conférence, et Gribinski, ayant eu le texte de la conférence, m'a suggéré de l'étoffer, d'en faire quelque chose. Mais déjà, et dès le départ, du même coup, je pense que peut-être il n'y aurait pas ces échappées dont tu parles, ou ces échappées, ou ces perspectives, si j'avais d'emblée voulu faire quelque chose, écrire quelque chose sur psychanalyse.
Sur le thème, voilà. Mais c'est ça. Oui, c'est
et
ça.
Que c'est, cette forme orale qui m'a permis peut-être de suggérer certaines perspectives.
Encore que dans ton histoire, la traversée par la fiction t'a beaucoup préoccupé. Je pense à Libido Omnibus, par exemple, et puis à ce que tu racontes de ton aventure bordelaise déjà, en 2001, je crois, où tu avais ramassé plusieurs patients seul, y compris toi comme patient, dans quelque chose qui avait fasciné l'auditoire et qui a été ensuite très, très critiqué.
Quand j'ai dit, écoutez, tout ce que je viens de vous dire et qui semble vous avoir retenu, ému, effectivement, ça avait l'air d'être le cas, c'est de la fiction.
C'est ça.
C'est de la fiction, mais une fiction. Alors, je vais prendre un exemple, ou plutôt je vais parler d'un autre livre dont mon expérience est tout à fait récente. Ce livre a été écrit par une femme à la suite de la mort de son père. Ce père était maniaco-dépressif et il avait été un grand professeur de droit, d'ailleurs, et puis ensuite SDF, et puis ensuite, tout ce par quoi peut passer vraiment une psychose maniaco-dépressive sévère. Il avait deux filles, les deux filles couraient un peu après où était le père, où est-ce qu'il en était, tantôt trouvaient un être établi, rayonnant, et tantôt hyperactif, tantôt le trouvaient dans un état lamentable, etc. Et ce père a laissé des notes, et comme c'était un homme très cultivé et fort intelligent, semble-t-il, ses notes sont très intéressantes sur ce qu'il rencontrait, les expériences qu'il faisait, etc. Et il a, au moment de mourir, laissé tout ça à sa fille, avec une fille qui avait déjà écrit des livres, des romans, qui était une philosophe de formation, etc. Avec la mention « à romancer ». Des drôles de propositions. Ces notes, comme des notes qu'on écrirait dans un journal intime, là, et à romancer. Et tout le livre, c'est... Et elle s'y est mise. Elle s'y est mise. Donc, elle n'introduit rien qui ne soit pas vrai, mais elle construit une image de son père à travers. Et dans ce qu'elle va prendre, de ces fragments qu'il lui propose... et qui est extrêmement intéressante parce que c'est non seulement une image du père, réunifiée, peut-être d'une certaine façon. Mais au-delà, ce que nous dit la maladie de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va chercher de profondément humain à travers ces notes du père, il y a là quelque chose, bon, je fais l'article, c'est Gwenaël Aubry, ça s'appelle Personne et ça a eu le prix féminin en 2009.
Ce détour que tu nous proposes illustre parfaitement ton bouquin. Parce que tout de même, il y a une question. Comment écrit l'écrivain qui n'est pas psychanalyste? Et d'une certaine façon, tu apportes une ébauche de réponse. Il écrit, je pense que cette femme n'est pas analyste.
Non, philosophe.
Elle écrit pour des raisons transférentielles, qu'elle ne connaît pas forcément, mais qu'il lui reste...
En l'occurrence.
Et est-ce qu'un écrivain n'écrit pas ou alors, ce n'est... Autrement dit, comment écrit un écrivain non psychanalyste? Parce que tu parles en écrivain psychanalyste.
Pourquoi en écrivain psychanalyste? Parce que je suis psychanalyste. Je rapproche les deux parce que...
C'est une sacrée aventure.
Mais oui, sans doute. Bon, mais il y en a d'autres, des aventures. J'ai commencé en étant prof de gym, moi.
Ouais.
Avant de faire pas mal de choses différentes.
Avec un premier livre, d'ailleurs.
Oui. Je préfère pas en parler. Écrivain psychanalyste, ça m'embête, ça. Oui. Non, il se trouve que, mais justement, tout ce que je dis, c'est que c'est pas dans son, en tout cas, bon, c'est différent sur plein de choses.
Oui.
L'activité est différente sur plein de choses. Mais sur ce terrain-là, qui est celui, qu'est-ce qu'il en est des mouvements psychiques de là, là, c'est une seule et même chose pour moi.
Oui.
Et c'est pour ça que ça n'a pas été difficile de passer... ce qu'on faisait à la Nouvelle Revue, c'était, sous l'impulsion de Pontalis, c'était... On a fait appel à des écrivains, on a fait appel
à des musiciens. C'est une aventure extraordinaire.
Tant et si bien, d'ailleurs, qu'on s'est vu reprocher d'être plutôt une revue généraliste, où était la rigueur pure et dure de la psychanalyse.
Revue non scientifique, et revue non psychanalytique, disaient d'autres.
Littéraire,
c'est ça, etc. Littéraire, en particulier les Anglais.
Bon,
oui.
Il se trouve quand même que c'est dans la référence à cette revue que les psychanalystes se reconnaissaient.
Hein, oui.
Et ça, c'était quand même important.
Bon, on va peut-être en rester là, François. Merci beaucoup.
Merci.